L'invité de la rédaction.
L'invité de la rédaction, c'est Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po et professeur à la Paris School of Business. Bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCJ pour nous parler de votre livre qui vient de paraître, Les 100 mots de la guerre, aux éditions des presses universitaires de France, dans la collection Que sais-je. 100 mots donc pour dire la guerre, mais Frédéric Ancel, est-ce suffisant ?
Ah, c'est jamais suffisant, et en même temps, on pourrait résumer la guerre de quelques mots. Tout dépend en réalité de ce qu'on veut en faire de ce concept, parce que c'est un phénomène tellement multiple, tellement multifactoriel, tellement ancien, tellement complexe à certains égards, que évidemment, en réalité, 100 mots, ça ne suffit pas, mais j'ai envie de vous dire que la question pourrait se poser aussi pour 1000, 10 000, 20 000. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis également que en réalité, on aurait pu ou on pourrait résumer aussi la guerre en quelques mots. Encore une fois, tout dépend des contours qu'on souhaite lui donner. Et dans cette collection, dans cette nouvelle collection des Que sais-je, l'intérêt, c'est qu'on peut choisir de manière extrêmement libre ces 100 mots. Et j'ai tenu à en choisir des décalés par rapport à ce à quoi on pourrait peut-être s'attendre ordinairement. Et en même temps, la grande difficulté, c'est par définition, c'est de résumer ou d'aller à chaque fois à l'essentiel de chacun des mots qui caractérisent la guerre.
Oui, alors c'est en effet un 100 mots qui sont une sélection assez éclectique, mais vous mettez ce petit ouvrage justement sous l'exergue de trois citations qui elles-mêmes continuent de travailler le champ de la guerre au plus large, de Raymond Aron à Paul Valéry. Paul Valéry qui dit « Les guerres, ce sont des gens qui ne se connaissent pas et qui s'entretuent parce que des gens qui se connaissent très bien ne parviennent pas à s'entendre. » Quand Aron lui dit « L'homme est un être raisonnable, les hommes, c'est moins sûr. » On se rend bien compte du coup d'entrée que vous acceptez aussi cette vision très large de la guerre qui effectivement ne reposerait sur des raisons que l'on dit officielles et d'autres raisons qui travaillent l'humanité tout entière, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai essayé de prendre le plus de recul possible, un recul quasiment philosophique, hein, lorsqu'effectivement on dit, lorsqu'on constate à juste titre, en faisant tourner la planète et sans s'impliquer biographiquement ou sentimentalement dans une guerre en particulier. Donc fondamentalement, lorsqu'on adopte le regard du prince, en quelque sorte, comme me dit mon maître en géopolitique Yves Lacoste, c'est complètement absurde. C'est absolument absurde et on a effectivement affaire, dans la quasi-totalité des cas, à des gens qui se tuent, qui se blessent ou qui se frappent sans se connaître et des gens qui ne se seraient absolument jamais connus. Maintenant, à chaque fois qu'on va modifier l'angle interprétatif, à chaque fois qu'on va descendre en quelque sorte un peu plus sur terre, c'est-à-dire qu'on va travailler des conflits au plus près, eh bien, on va néanmoins être obligé de quitter cette espèce de regard philosophique absolument dédaigneux et méprisant de la guerre pour considérer que c'est pas toujours aussi évident. Ça, l'absurdité n'est pas toujours aussi évidente. Je veux dire par là que lorsque vous avez de temps à autre un véritable agresseur et un véritable agressé, ça arrive même très souvent dans les guerres. Hein. Tout n'est pas systématiquement un partout balle au centre. Bon, eh bien là, vous n'êtes pas, vous êtes contraint de prendre parti ou en tout cas de considérer que jusqu'à ce que l'agresseur revienne à de meilleurs sentiments, en quelque sorte, on va dire ça comme ça, l'agressé a le droit de se défendre. Et on se défend comment ? Assez rarement avec des prières, mais en faisant la guerre. Et vous voyez, et on peut encore descendre de niveau d'analyse, et lorsque vous êtes, je reprends mon terme, biographiquement, sentimentalement, religieusement, politiquement, que sais-je encore, impliqué dans un conflit, là, vous n'aurez plus du tout la même vision d'absurdité de la guerre, parce que vous considérez que votre camp, entre guillemets, est d'une manière ou d'une autre tout à fait légitime.
Oui, mais si vous interrogez ainsi Frédéric Ancel, l'idée même de peut-on avoir de bonnes raisons de faire la guerre ? Est-ce la raison qui te prédomine dans la guerre ?
Alors, ça aussi, c'est une très très bonne question, hautement philosophique. Faire la guerre, peut impliquer de bonnes raisons. Là, je vais vous dire, le grand stratège chinois Sun Tzu, qui a vécu il y a 24 siècles, considérait que, au fond, le souverain ne devait entamer la guerre qu'à une seule condition, celle de défendre le bien commun ou le bien public. Hein. Selon certaines traductions, on trouve aussi le bonheur du peuple. Alors, le bien commun, c'est pas mal. Le problème est de savoir
comment le définir.
Oui, c'est ça. Comment définir? Le problème est aussi une question de bonne foi et de bonne volonté. Les pires dictateurs et les pires bourreaux dans l'histoire n'ont évidemment jamais dit « Ah, mais je vais faire la guerre parce que tel est mon bon vouloir et j'ai envie de massacrer tout le monde ». Bon, évidemment, ils trouvaient eux aussi une forme de légitimation à leur entreprise impériale et meurtrière et éventuellement la légitime défense. Bon, donc c'est, si vous voulez, on est toujours confronté face à la guerre, au problème de la légitimation, de la raison. Hein, c'est exactement le terme que vous avez employé. Je le reprends. Il y a des raisons pour lesquelles des États, pas seulement des États d'ailleurs, hein, des groupes, des cités, des tribus, des groupes religieux, des collectifs religieux, etc., font la guerre. C'est-à-dire abandonnent le champ de la discussion et décident de faire usage massif et létal de la violence.
Oui, c'est ça, puisque dans la...
Et des violences organisées.
Puisque, au fond, ce qui inaugure votre ouvrage, c'est justement d'accepter, en tout cas, d'interroger la guerre selon des motifs qui vont au-delà de la victoire politique et de la conquête politique, mais qui peuvent être justement un moyen d'affirmation sur bien d'autres terrains. Je vous cite, la guerre est le recours à l'usage létal, collectif et organisé de la force entre plusieurs puissances, dont au moins l'une est généralement un État, mais pas que, à des fins et pour des motifs politiques, moraux, religieux, commerciaux ou stratégiques, et pensés comme tels par les belligérants. Mais dans une acceptation aussi large, finalement, c'est la létalité qui fait la guerre pour vous. C'est-à-dire, c'est donner son accord pour tuer.
Oui, c'est ça. C'est la létalité, c'est le côté organisé hein, de cette létalité. C'est nécessairement collectif. On n'a pas affaire à une bagarre entre deux copains dans la cour de récréation. Et puis derrière, il y a la représentation d'être en guerre. Ça, c'est très important. Ça, pour moi,
et donc,
pas forcément des États. Depuis le traité de Westphalie de 1648, les États sont devenus l'acteur primordial, celui qui s'est arrogé, parmi tous les autres acteurs, celui qui s'est arrogé le droit de faire la paix ou la guerre. Mais en réalité, on a bien vu tout au long des siècles antérieurs, mais même depuis 1648, on a vu des groupes infra-étatiques faire la guerre. On a vu des tribus bédouines faire la guerre entre elles. On voit des groupes terroristes aujourd'hui faire la guerre alors que ce ne sont pas des États. On a encore vu des régions sécessionnistes finalement faire la guerre, autrement dit des États non proclamés ou pas encore proclamés ou reconnus faire la guerre. Cela dit, pour l'essentiel, l'État reste l'acteur primordial des relations internationales et par conséquent le détenteur hein, essentiel de ce droit de faire la guerre. D'ailleurs, c'est reconnu par la Charte des Nations Unies. Hein, dans son article 51 du chapitre 7, la légitime défense est explicitement reconnue comme un droit, mais un droit exclusivement accordé aux États.
Mais est-ce que c'est à l'aune aussi de ce que vous décrivez dans ces 100 mots pour dire la guerre, Frédéric Ancel, qu'on peut aussi comprendre pourquoi l'imaginaire de la guerre s'applique aussi à bien d'autres champs, c'est-à-dire qu'on puisse aussi facilement parler de faire la guerre, c'est-à-dire la guerre sanitaire, la guerre économique, la guerre au terrorisme. Est-ce que c'est finalement utiliser la menace du permis de tuer, du permis de létalité, qui est toujours généré finalement dans cet imaginaire et dans l'emploi quand même extrêmement fréquent, bien plus que les guerres réelles, du mot guerre?
Oui, mais je pense qu'il y a galvaudage. Je suis très très opposé à toute forme d'usage trop massif et finalement donc galvaudé de termes aussi importants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez la guerre à toutes les sauces et que, y compris lorsqu'il n'y a pas une mort d'homme, y compris lorsqu'on n'a pas des théâtres d'opérations classiques, y compris lorsque ce n'est pas fondamentalement aussi organisé qu'une véritable guerre classique, etc., y compris lorsque on a affaire, bah tiens, récemment à un virus. Bon, alors 6 fois le mot guerre employé par le président de la République, évidemment, on sait très bien pourquoi, d'un point de vue pédagogique, il l'a fait, et au fond, c'est pas idiot. Il s'agit de faire prendre conscience aux gens qu'il y a un véritable risque. Le problème, c'est que, à force d'utiliser ou de surutiliser ce terme-là, bah, le jour où vous faites, où vous avez affaire à une véritable guerre, il faut bien trouver un autre mot. Oui. Donc, je pense que cette surinterprétation est gênante. On a affaire à un véritable galvaudage. Tout n'est pas guerre. Tout n'est pas guerre.
Oui, mais on pourrait se dire, en lisant justement toutes les entrées de votre ouvrage, donc les 100 mots de la guerre, qu'il s'agit de mobiliser tout cet arsenal-là, c'est-à-dire qu'il y a des armes de guerre sans guerre, c'est mobiliser les formes de camaraderie, les formes justement de l'assimilation à des formes de brouillard, etc., en créant finalement un champ de guerre là où effectivement il n'y en a pas nécessairement. Mais qu'il peut y avoir une forme d'anticipation dans ça. Est-ce qu'il n'y a pas une guerre hors la guerre ?
Si, il y a souvent. La guerre est souvent hors la guerre. La guerre précède parfois la guerre, et c'est d'une autre nature. C'est-à-dire que parmi les exemples que vous donnez, j'en trouve un ou deux qui sont très très propices à la réflexion sur la guerre juste. C'est-à-dire que si il faut puisqu'on ne peut pas, me semble-t-il, balayer d'un revers de main toute légitimité de faire la guerre. Autrement dit, s'il y a des guerres justes, hein, ça remonte à Saint-Augustin, 5e siècle. Hein. S'il y a des guerres justes, je pense qu'il y a des guerres justes, eh bien, il faut s'y préparer. Et se préparer à la guerre, ce n'est pas l'affaire, mais vous avez parfaitement raison, c'est se mettre déjà sur le terrain sémantique, psychologique, budgétaire de la guerre. Mais ça permet parfois, peut-être même souvent, d'éviter d'avoir à la faire, parce qu'en face, celui qui aurait bien volontiers souhaité la faire très concrètement pour des raisons très très peu avouables et vous croquer ou vous réduire en esclavage ou en tout cas vous réduire à sa volonté, voire pire, eh bien lui réfléchira à deux fois. C'est juste ce qu'on appelle la dissuasion. Donc oui, bien sûr, il y a des formes de. Alors j'appellerais ça des formes peut-être de lutte ou de préparation hein, à la guerre, hors la guerre, bien sûr.
Oui, entretenir une forme d'imaginaire relatif à la guerre, est-ce que c'est aussi ce que vous décrivez dans le livre, comme un flottement du terme autour de cette possibilité bien réelle de la guerre partout et toujours présente ?
Oui, c'est ça. Je pense que la guerre est partout et toujours possible. Je pense qu'elle est partout et toujours possible, y compris sur des continents ou des sous-continents qui paraissent extrêmement apaisés. Parfois, ça va extrêmement vite. Parfois, vous avez des conditions, c'est un petit peu comme les planètes qui s'alignent sur un même axe, vous avez des conditions défavorables, reprenez les catastrophiques et paradigmatiques années 30, où la guerre intervient quasiment sans coup férir. Et ce sont d'ailleurs les schémas les plus catastrophiques pour ceux qui n'étaient pas préparés, pour le coup, à la guerre. Donc, il y a cette forme de, comment dirais-je, cette réalité, plus exactement, selon laquelle, malheureusement, depuis sans doute les toutes premières cités sumériennes, peut-être même avant, la guerre est partout et toujours possible. Ça ne veut pas dire qu'elle est probable, ça ne veut pas dire qu'elle est vraisemblable, ça ne veut pas dire qu'on va s'y plonger. Mais en revanche, ça veut dire qu'à peu près aucun collectif ethnique, religieux, social, politique sur Terre ne peut se prévaloir de n'avoir jamais, jamais connu la guerre dans l'histoire. C'est à peu près inimaginable. C'est même pas à peu près imaginable, ce n'est pas imaginable. La guerre, d'une manière ou d'une autre, elle intervient dans l'espace et dans le temps, à peu près partout et toujours. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'elle est fréquente. Hein. Et j'utilise à un certain moment dans mon ouvrage le terme de. Enfin, j'oppose la guerre au rapport de force. Les rapports de force, ce n'est pas la guerre. À la guerre, il y a un rapport de force. Mais au regard de la quantité absolument innombrable, infinie, des rapports de force qui régissent les rapports entre les êtres humains, entre les groupes d'êtres humains, entre les villes, les entreprises, les États, les comtés, les duchés, les baronnies, que sais-je encore, bon, depuis la nuit des temps, mais on regarde cette multiplicité absolue des rapports de force, combien de fois ça a dégénéré et combien de fois on a fait la guerre ? Très peu, finalement.
Pour dire, Frédéric Ancel, que nous sommes au fond toujours le fruit de la guerre, mais au sens aussi d'une conscience et d'une mémoire historique. Les institutions de la paix naissent que parce qu'il y a eu la guerre.
Par définition, oui. Oui, c'est absolument juste. C'est juste, ça ne veut pas dire que ces institutions permettent d'empêcher ou d'éviter absolument la guerre. Vous savez, en 1928, il y a eu un pacte, le pacte Briand-Kellogg, un pacte franco-américain dans le cadre de la SDN, où on a mis la guerre hors la loi. Bon, mais c'est idiot. C'est comme si on mettait la maladie hors la loi. Je pense que la guerre, quelque part, relève de la psyché humaine. Je ne sais pas si c'est une maladie ou pas, mais à mon avis, on est plutôt dans une forme de normalité humaine. C'est comme ça, c'est très triste, c'est ainsi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans quelle mesure la guerre est réellement fréquente ou réellement rare au regard des rapports de force. Et moi, je pense pouvoir constater que, depuis, encore une fois, la très haute antiquité, au fond, si on la place, il faut la placer relativement à l'ensemble des rapports de force, donc je rappelle que la multiplicité totale est infinie, en réalité, on fait finalement assez attention, sinon, je veux dire, on ne serait pas là pour en parler, il n'y aurait plus un humain sur cette Terre, si on faisait toujours la guerre dès qu'il y avait le moindre rapport de force en jeu, voyez-vous. Donc je pense que c'est à cette aune-là qu'il faut tenter ce que l'ONU fait depuis 1945, avec des échecs et des succès, c'est-à-dire non pas de considérer la guerre comme hors la loi, c'est encore une fois, ça me paraît tout à fait stupide, mais c'est de tenter de l'enfermer dans des espaces, dans des temps, dans des conditions surtout, et dans une cruauté les plus restrictives possibles. Voilà, c'est, pour moi, c'est le, si je devais définir ou résumer l'un de mes objectifs en tant que géopolitologue, mais en tant qu'humaniste aussi, ce serait ça, ce serait de limiter le plus possible la guerre.
Et quel est votre regard, justement, Frédéric Ancel, sur la capacité aujourd'hui à cerner les contours de la guerre de manière à justement en rendre les conditions de possibilité les plus restrictives possibles? Est-ce que les institutions qui sont nées et justement de l'expérience de la guerre sont aujourd'hui, que ce soit l'ONU, que ce soit l'OTAN, que ce soit aussi au regard de ce qui se joue, on le voit aussi par le biais de la position américaine, de celle de Donald Trump vis-à-vis de ces institutions, par exemple. Sommes-nous aujourd'hui dans ce travail de restriction des conditions pouvant conduire à la guerre?
Oui, je pense que oui, et j'en veux pour preuve que ces dernières années, il n'y a jamais eu aussi peu de guerres d'une part et aussi peu de guerres très meurtrières d'autre part depuis 1945. Ça va sans doute paraître étonnant à vos auditeurs, parce qu'on est surtout en France d'ailleurs, on vit sur une impression tout à fait différente. Une impression, ce n'est pas une réalité, au contraire. Et la réalité, c'est celle-là. Donc je pense que c'est pas tant les institutions onusiennes qui ont réussi à, même si l'ONU a connu de beaux succès, mais c'est plutôt la sacro-sainte dissuasion et les sempiternels rapports de force. Je veux dire par là que la dissuasion, c'est pas seulement... Ça ne s'est pas arrêté aux États-Unis face à l'URSS, chacun disposant de 1 000 ou 2 000 bombes nucléaires. La dissuasion, ça peut parfaitement jouer entre deux tout petits États, comme le Burundi et le Rwanda, par exemple, parce que chacun considère que faire la guerre risque de lui coûter beaucoup plus cher que de ne pas la faire, et que s'il y a litige, on va essayer de se débrouiller différemment. C'est ça, au fond, la dissuasion. Et le respect des rapports de force, le fait d'assumer les rapports de force, quelque part de se préparer, malgré tout, à la guerre. Alors, avec la meilleure foi possible, mais là encore, on est obligé de s'en remettre à ceux qui disposent des prérogatives, et ils ne sont pas toujours bonne foi, malheureusement, les hommes d'État, sinon ça se saurait. Bon. Mais enfin, en tout cas, cette dissuasion permanente, malgré tout, elle demeure. Il y a quelque chose qui me paraît très intéressant en ce début du XXIe siècle, c'est que même s'il y a eu, et il y a encore, malheureusement, des explosions de violence, elles sont relativement contenues au regard de ce qui a existé, notamment dans les années 90 et 2000, où un Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, puisque vous avez cité les Nations Unies avec raison, disait de l'Afrique des Grands Lacs, c'est l'enfer sur Terre. L'enfer sur Terre, disait-il, et il était parfaitement francophone. Bon. Et donc, on a
il reste des enfers sur Terre.
Alors, aujourd'hui, il y a encore des... malheureusement, il y a des foyers...
Est-ce qu'on peut considérer que le Liban est aujourd'hui un enfer sur Terre?
Non, le Liban n'est pas un enfer sur Terre. Non, l'enfer sur Terre...
Pardon, la Libye, d'ailleurs. Mais le Liban pourrait l'être au regard des catastrophes, évidemment, qui sont accumulées ces derniers temps. Mais par exemple, la Libye?
Non, pas la Libye non plus. En Libye, l'essentiel de la population mange à sa faim et n'a pas été expulsé. Il y a assez peu de déplacés au sein, en tout cas, de l'État libyen. Et s'il y a encore des conflits, enfin un conflit en l'occurrence, sa manifestation est plutôt sporadique. Ça ne veut pas dire que c'est génial, mais c'est ce qu'on appelle un conflit de basse intensité.
En Syrie, par exemple, également.
Alors, en Syrie, ça a été l'enfer sur Terre. En Syrie, ça a été l'enfer sur Terre pendant plusieurs années. Absolument. Je vous rejoins là-dessus. Et ce qui me permet de dire que depuis 2-3 ans, ça va mieux, quelque part, c'est faute de combattants. Vous voyez, donc je triche un petit peu avec mon optimisme, parce qu'en réalité...
Mais en termes de létalité, par exemple, en termes de vie humaine qui continue chaque jour d'être perdue en Syrie, on est toujours dans une guerre extrêmement violente.
Non, sauf la poche d'Idlib, on a affaire maintenant à un pays qui est beaucoup plus calme, où les zones de tension subsistent, où des tirs subsistent, mais où, pardon de parler de manière un petit peu froide, mais en nombre de pertes humaines, encore une fois, faute de combattants, c'est pas génial, c'est pas parce qu'on a découvert que la paix c'était mieux, malheureusement. Mais faute de combattants, on est aujourd'hui sur une forme de, entre guillemets, d'apaisement. Pareil au Yémen, d'ailleurs. Bon. En revanche, un véritable enfer sur Terre avec ou sans guillemets, ça a été effectivement l'Afrique des Grands Lacs avec un génocide avéré, avec plusieurs millions de personnes et essentiellement des civils massacrés dans des luttes intestines liées justement à ce qu'on appelle les seigneurs de la guerre, qui n'en font qu'à leur tête, alors qu'ils sont tout à fait infra-étatiques pour le coup. Bon, et ça a été évidemment au Congo. Et d'ailleurs, quelque part, ça continue. Vous avez des foyers comme ça de l'étatité qui sont absolument dramatiques en Afrique. Mais par rapport aux années 90 et 2000, et je vous ferai grâce évidemment du génocide au Cambodge et de la guerre du Vietnam, on est aujourd'hui plutôt dans quelque chose qui ressemble à une négociation tous azimuts. Alors c'est vrai au niveau de l'ONU, mais c'est vrai aussi, donc entre les États, mais c'est vrai aussi entre les États et les GAFA, c'est vrai entre les États et de grandes ONG, c'est vrai entre des grandes ONG et de grandes entreprises multinationales, etc. Vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dans l'histoire, sans doute, autant négocié, non seulement entre acteurs primordiaux classiques que sont les États, mais aussi entre différentes entités, entre différents acteurs, et c'est ça qui me paraît intéressant.
Est-ce qu'on peut comprendre aussi le processus, par exemple, de normalisation, notamment entre Israël et les Émirats Arabes Unis, à l'œuvre en ce moment, comme finalement cette forme de négociation tous azimuts, comme ces formes de règlement? Et d'ailleurs, on pourrait d'ailleurs s'amuser du fait que l'emploi a été assez fréquent de l'idée d'accord de paix relatif à la normalisation entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Vous en pensiez quoi, d'ailleurs, justement, de cette mobilisation de la paix pour parler d'une situation qui n'était pourtant pas la guerre entre Israël et les pays arabes?
Oui, c'est ça. Vous avez raison, il y a eu un vrai abus de langage, surtout avec les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis ont été créés en 71. Donc déjà, bon, ils ont raté 48, 56, 67. Et ils n'ont jamais envoyé le moindre soldat, ni en 73, ni en 82, nulle part, sur un front, entre guillemets, israélien. Jamais. Jamais. Bon, jamais les Émirats. C'est un ensemble de clans et de tribus fédérées par les Britanniques ou sous l'égide des Britanniques en 71. Jamais ils ne se sont ressentis, vus, perçus en guerre avec Israël, avec ce qui pour eux est une autre tribu, un peu à la bédouine en fait. Hein. Alors on peut appeler la tribu des Juifs ou des sionistes, mais peu importe. Et si vous ajoutez à cela qu'il n'y a absolument aucune frontière commune, donc en fait c'est un accord de paix, mais qui n'intervient pas après une quelconque hostilité. J'ajoute que le premier bureau d'intérêt commercial ouvert par les Émirats Arabes Unis avec Israël date quand même de 96. Donc, oui, c'est une histoire. Je dis pas que c'était facile, c'est toujours très très aisé de dire a posteriori oui, bon, c'était évident. C'est jamais facile et c'est toujours très très bon à prendre, c'est une bonne nouvelle. Et pareil pour Bahreïn. Mais enfin, effectivement, il y a eu abus de langage parce que ce n'est pas un pays qui était en guerre avec Israël. Maintenant, pour le reste du monde arabe, qui pour l'essentiel est effondré d'ailleurs, l'essentiel du monde arabe, on a aujourd'hui de toute façon une reconnaissance de facto et parfois même d'excellents rapports, je pense évidemment au Maroc, avec Israël, entre Israël donc, et différents États arabes, et on ne peut plus aujourd'hui parler, et ça fait bien longtemps que je le dis, je le répète, on ne peut plus parler de conflit israélo-arabe. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'objet, il n'y a pas d'objet.
Frédéric Ancel, pour finir, de quelle guerre parle le plan de paix américain pour le Proche-Orient?
Alors, pour le coup, on a le noyau dur de cet ancien conflit israélo-arabe, c'est-à-dire le conflit israélo-palestinien, qui lui demeure. Il y a un conflit. Il y a un conflit territorial, un conflit d'identité, un conflit mémoriel. Ça, c'est une certitude. Mais ce noyau dur-là, il est passé, me semble-t-il, il était relégué d'un statut de conflit à un statut de simple contentieux. Et c'est la raison pour laquelle, depuis une vingtaine d'années, les grandes chancelleries, y compris l'Europe d'ailleurs, et la France en particulier, ne le considèrent plus comme un conflit dur et irradiant de sa toxicité géopolitique toute la région. Bon, mais au fond, même au sein du monde arabe, on ne le voit plus comme un conflit, mais comme un simple contentieux. La preuve avec les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Donc le plan de paix de Trump, qui tient lieu de plan de paix, c'est assez bâclé me semble-t-il, et qui est intervenu très tardivement et qui est incomplet, est là pour résoudre non pas un conflit entre Israël et les pays arabes, conflit qui n'existe plus, mais pour tenter de résorber quand même ce noyau conflictuel qui subsiste entre les Israéliens et les Palestiniens.
Est-ce que si on vous suit, parce que finalement, au regard de ces mots, encore une fois, qui définissent la guerre dans votre livre, Frédéric Ancel, Les 100 mots de la guerre, est-ce que c'est cette manière dont, quand une guerre devient conflit, finalement, la paix elle-même devient autre chose, c'est-à-dire une autre manière de négocier, une autre manière de normaliser justement des rapports, de chercher un terrain d'entente? On en revient à la définition de Paul Valéry de départ, non? Est-ce que vous définissez au final en filigrane ce passage aussi, les conditions de la guerre, ce sont aussi les conditions de la paix, voire d'une autre forme de normalité des rapports?
Oui, absolument. L'un est intimement et strictement lié à l'autre. Il n'y a pas réellement de paix sans qu'il y ait eu la guerre, et il n'y a pas de guerre sans qu'il y ait eu et sans qu'on espère aboutir à la paix. Au fond, même les chefs d'État les plus belliqueux, en réalité, pensent l'après, c'est-à-dire pensent la paix et souhaitent obtenir par la guerre une paix qui leur sera favorable. Mais personne n'est assez dingue pour, malheureusement, si, il y en a eu, y compris au XXe siècle, on est bien placé pour savoir, mais enfin, à part des quelques régimes fanatiques au dernier degré et apocalyptiques et génocidaires, l'essentiel, la quasi-totalité des régimes politiques au monde pensent en réalité, in fine, la paix. L'un ne va pas sans l'autre, effectivement, et j'ai toujours considéré qu'il valait mieux une bonne paix qu'une mauvaise guerre, et qu'une bonne guerre n'est jamais fondamentalement positive, même pour celui qui l'emporte, elle a toujours un coup. La guerre a toujours un coup.
Oui, mais la guerre, encore une fois, la paix peut être une guerre qui s'amenuise, c'est-à-dire qui disparaît petit à petit au fil du temps. Et là encore, pour revenir sur votre propos de départ dans ce livre, qui est de dire on est loin du champ de bataille qui va s'arrêter sur une victoire tonitruante d'un camp ou de l'autre. C'est parfois la guerre disparaît petit à petit.
Oui, Bonaparte disait que, au fond, la paix, c'était l'harmonisation des arrière-pensées. C'est-à-dire que la représentation de la guerre doit disparaître aussi, et non pas seulement la réalité de la guerre. Hein. Lorsque vous reprenez cet extraordinaire roman de Julien Gracq, Le Rivage des Sirtes, en fait, vous avez une guerre qui n'existe plus, qui officiellement est toujours là, mais qui a existé 300 ans auparavant, mais dont l'une des deux cités rivales, en l'occurrence Orsena, qui est croulante et tout à fait décadente, doit absolument préserver auprès de sa population le sentiment, la représentation de la guerre. Pourquoi ? Pour tendre le ressort des énergies nationales. C'est un peu ce que j'appelle, c'est le concept de l'horizon bleu des Vosges. Bon. Et effectivement, je pense qu'une véritable paix pérenne, durable, solide, c'est celle qui intervient avec l'absence qui se dégage d'arrière-pensée. Alors ça, c'est extrêmement difficile. Prenez le cas de Gaulle et d'Hanover, le traité de 1863, on a expurgé les livres d'histoire-géographie, on a fait en sorte de tenter de, je ne dis pas que c'est une réussite, on verra bien, les prochaines décennies, j'en sais rien, mais enfin, là, on a tenté de déraciner littéralement tout ce qui pouvait, à terme, faire les conditions d'une nouvelle guerre entre ces deux pays. Donc, je pense que la paix, ce n'est pas seulement la signature d'un bout de papier à Versailles comme en 19, on a bien vu ce que ça pouvait donner, une mauvaise paix. Donc, c'est effectivement le tenter de déraciner jusqu'aux représentations éventuellement positives ou valorisantes d'un jour pouvoir refaire la guerre à tel ou tel adversaire. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est à peu près impossible à imposer. C'est-à-dire que sur quelques dizaines, sur quelques centaines d'années, vous avez beau être en paix, et une paix sincère et solide et économiquement fondée, etc., entre deux voisins tout à fait paisibles, vous ne pourrez jamais savoir si, à la faveur de circonstances défavorables, on ne reviendra pas un jour en guerre entre ces deux pays.
Eh bien voilà, des 100 mots de la guerre, nous en sommes venus à une définition de la paix comme la guerre toujours possible, d'une guerre que l'on connaît bien et que l'on apprend à connaître encore mieux, donc par cet ouvrage que vous publiez, Frédéric Ancel, Les 100 mots de la guerre, aux Presses universitaires de France dans la collection Que sais-je. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RCJ et je en profite pour conclure cette édition que je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 8h pour un nouveau journal.
Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info. We'll be right back.